au Théâtre de la Parfumerie. C'est une performance d'Antonio Bouille qui est mise en scène par Paola Pagani et qui raconte l'histoire du tigre de Dario Fo. D'abord, nous parlerons avec Paola Pagani.
Oui, bonjour.
Bonjour. Vous avez mis en scène l'histoire du tigre.
Oui, c'est un texte de Dario Fo. Et en fait, c'est dans le cadre du festival Bouche-Oreille. C'est une invitation de Patrick Mort, qui est le directeur du Théâtre Spirale et donc du festival Bouche-Oreille. Et il souhaitait monter ce texte avec Antonio Bouille. Et donc, il m'a confié cette tâche. Et donc, le spectacle se déroule en ce moment à la Parfumerie. Nous avons commencé mardi et c'est encore jusqu'au 23 octobre. C'est en fait un texte très drôle, comme un peu tous les textes de Dario Fo, qui relate brièvement, là, en deux mots, c'est l'histoire d'un soldat. Ça se passe en Chine et c'est à l'époque de la, juste avant la révolution communiste. Donc, ce soldat se trouve blessé et abandonné par ses camarades à son sort, donc qui peut être à la mort. En fait, bien sauvé par une tigresse qu'il rencontre dans une caverne. Et bon, cela, donc, bon, si on veut, comme ça, il a sa vie sauvée. Hein, et cette tigresse, par la suite, aidera aussi les villageois à combattre justement les soldats des Chiang Kai-shek. Mais c'est aussi parce que ça a toute une signification symbolique, dans le sens que avoir le tigre, on dit qu'en Chine, ça veut dire résister. Donc quand quelqu'un a le tigre, il est capable, face à des adversités, des difficultés, etc., de résister, de faire face, etc. Donc si on veut, ça relate toute cette histoire d'une manière, je pense, assez drôle et grotesque. C'est Antonio Bouille qui incarne tous les personnages.
Oui, c'est d'abord une manifestation, enfin, c'est une performance assez extraordinaire, puisque c'est 100 ans mort. Disons que c'est lui qui incarne le personnage.
Oui, mais c'est parce que l'écriture de Dario Fo est faite comme ça. En fait, c'est des monologues dans lesquels Dario Fo, lors de la création de ce monologue, prenait en charge tous les personnages. Et je crois que la beauté de ce texte réside aussi dans ça, dans le fait qu'il y a un changement perpétuel entre la narration, qui donc se situe dans le passé, si on veut, et puis l'incarnation, en quelque sorte, qui est dans le présent. Et ce va-et-vient, Dario Fo, il le fait vraiment tout le temps dans ses textes. Et c'est impossible de confier donc ce rôle de la tigresse, si on veut, à un autre personnage. Ça serait vraiment dommage, parce que je crois que la beauté, c'est dans le fait que le personnage, il est comme pris dans une sorte de fleuve qui est celui de la narration, de l'histoire, etc. Et je crois que Dario Fo, il prend beaucoup plus de liberté que nous dans ses textes, dans ses monologues, par rapport à couper, rajouter, etc. Et maintenant, nous avons voulu rester plutôt fidèles à l'écriture, qui est très belle, qui se prête très bien à être jouée, justement. Et Antonio, c'est vrai qu'il le fait bien, quoi, très bien.
Bon, lui, il joue tous les rôles, et ce qui est étonnant en voyant sa performance, c'est qu'il est vraiment très bien perçu par le public, les enfants s'amusent, les adultes aussi. Il y a un véritable échange entre le spectateur et l'acteur.
Mais oui, parce que si on veut l'écriture de Dario Fo, j'en reviens là parce que c'est la base, quoi. Elle est faite pour être jouée vraiment en direct. Il y a comme une sorte de relation qui est ouverte. Hein. C'est comme tout conteur regarde son public et il joue et presque il renifle. Hein. Ses réactions, si on peut dire. Et donc c'est vrai que même s'il est très structuré, le travail est... Et c'est pas donc juste le fruit d'une improvisation casuelle. Malgré cela, c'est vrai que tout cela se passe en direct et il faut qu'il y ait tout le temps cette attention au public à qui est raconté l'histoire pour pouvoir rythmer avec ses réactions, en quelque sorte, la prise en charge de la réaction suivante de la part de l'acteur.
Et surtout qu'il n'y a pratiquement pas de décor, donc l'acteur est seul sur scène, il y a juste une porte dessinée derrière lui qui est l'entrée de la caverne, je suppose.
Oui, en fait, là, on a voulu faire un travail avec Michel Faure qui a fait la création de l'espace et des lumières. On a voulu, puisqu'on était dans le grand café de la Parfumerie, que c'est un lieu, pour ceux qui le connaissent, qui raconte son passé industriel plutôt, et puis on voit donc des mezzanines, des échelles en fer qui montent, et c'est un lieu très plein de charme, comme ça. Et puis on se dit avec Michel Faure que ce qui pouvait être intéressant, c'était de rendre la chose quelque part presque neutre, d'avoir un espace théâtral classique. Pour pouvoir permettre justement à la rigueur au spectateur, pour donner au spectateur la possibilité de situer cette histoire là où il veut. Et alors, à la suite, Michel Faure nous avait proposé, puisqu'il s'agit à un moment entre la rencontre de la tigresse et du soldat, il s'agit d'une caverne, et donc il m'avait proposé de reprendre un peu comme dans les vieux cabarets, enfin, ou d'aller dans le théâtre. Pseudo-classique, de reprendre une sorte de bouche de scène, et en fait d'entrée de scène, et en italien on appelle ça bocca scena, donc bouche scène, bouche de scène. Et puis puisqu'il y avait donc la tigresse et tout cela, bon, ça nous a sollicité aller dans cette direction. Et c'est vrai que vu les nombreux effets que Antonio Buil arrive à émettre tout seul entre ces bruitages et puis ces gestes, on ne trouvait pas nécessaire de rajouter autre chose et de se couper plutôt vraiment de son travail d'acteur et de le mettre en valeur.
Alors justement, avec un acteur qui a une telle présence et qui assume tous les rôles, quel est finalement le rôle de vous en tant que metteur en scène,
Paola Pagani? C'est ce qu'on voit à la fin. Avec Antonio Buil, on a une longue histoire d'une complicité de collaboration, puisque ça fait 8 ans que nous travaillons dans la même compagnie, qu'on a même fondée. Et en fait, c'est vrai que pour ce qui paraît des fois simple, ça demande aussi pas mal de travail, en fait. Et c'est vrai que pour arriver à ce résultat d'élégance, de presque simplicité, mais en même temps très, très bien structuré, parce qu'il faut après le refaire tous les soirs, ben, il y a du travail dans la structuration des images. Alors, quand on a lu le texte avec Antonio, on se disait, tiens, oui, on pourrait le faire comme ça et comme ci. Et puis, au fur et à mesure que nos deux imaginaires commençaient à travailler, on fixait des premières ébauches, si on veut, de ce que est devenu le spectacle. Et puis, on a essayé, à l'intérieur de ça, de les préciser, de les fixer, de les changer, de faire comme une partition qui est et physique, et sonore et textuelle, et de faire que tout cela soit le plus que possible organique et harmonique par rapport au texte de Dario Fo. Donc ça, c'était mon travail.
Antonio Buil vient d'arriver, Paola Pagani et la metteur en scène, et Antonio Buil est l'acteur. Vous avez réussi une performance stupéfiante d'arriver pendant 45 minutes à mobiliser, à fasciner un public, aussi bien les adultes que les enfants, qui eux s'en sont vraiment donnés, enfin s'en donnent toujours à cœur joie, je suppose. Comment vous avez ressenti?
Juste dire que c'est pas le théâtre Spirale, c'est le théâtre Due Punti.
Le théâtre Due Punti, mais
qui
fait la production. Mais c'est le festival
de l'oreille. C'est le festival du théâtre Spirale, tout à fait.
Organisé. Ouais,
voilà. Et alors, comment je ressens?
Quand vous avez réussi à créer, comment vous ressentez cette relation?
Écoutez, grâce à la metteur en scène. Grâce à l'aide de Paola Pagani, parce qu'avant j'ai entendu la réponse et j'ai trouvé que. Et c'est vraiment grâce à elle, comme elle a dit très bien, effectivement, c'est cette complicité que ça a été créée à force du travail qu'on fait depuis quelques années ensemble. Et c'est vrai que voilà, je dis, sans son regard et sans sa direction, vous savez, nous les comédiens, on navigue dans... Au moins, en tout cas, je navigue dans plein de choses. Et je ne sais pas très bien par où.
Je ne suis pas contente, je suis moi-même comédienne. Et cette manière de regarder les comédiennes ne me convient absolument pas.
Il y a
une autre chose à dire, peut-être, c'est que nous avons les deux, comme vous pouvez bien entendre, des accents, parce que je suis italienne, Antonio espagnol. Et il y avait ça aussi à prendre en compte. Et puis peut-être c'est aussi... De par le fait qu'on a tous les deux une même sorte de difficulté face à des textes, et c'est pour cela aussi qu'on arrive à, dans ce cas spécifique, on s'est arrivé à bien se comprendre, et puis à s'aider, et puis à faire face à des choses qu'on sait très bien les deux, qui sont des difficultés principales, et puis de ne pas être soumis à ces difficultés.
Mmh. Et par rapport au public, voilà, vous avez pu voir, ils étaient fascinés, mais je crois que c'est beaucoup le récit. Hein, c'est vrai, quand on commence à le raconter, on est emporté aussi en tant que comédien.
Un comédien jouer pendant 45 minutes seul, c'est une belle performance.
Oui, c'est fatigant, mais en même temps, ça donne beaucoup de plaisir de le faire, de sentir les réactions justement de ce public, hein, d'être ensemble justement dans ces 45 minutes.
Alors justement, reprendre Dario Fo, qui est quand même un texte très connu.
Oui, c'est un texte très connu, c'est surtout un auteur en Italie, et bien en France et en Suisse, il est très joué, mais en Italie, enfin, c'est vrai que c'est surtout lui qui se joue, parce qu'il est tellement performant sur scène que c'est très difficile de reprendre ses textes. Et moi, j'ai eu la chance, ou je ne sais pas quoi, de le voir deux ou trois fois sur scène, non pas dans l'histoire du tigre, mais dans les évangiles et dans... Non si paga. Et c'est un acteur qui prend vraiment beaucoup de place et qui, ben voilà, il ne lâche pas. Et s'il doit dire encore de. C'est comme moi à la radio, en fait. Je n'arrête jamais de parler, quoi. C'est en même temps très, très intéressant. Et quand j'ai pensé qu'Antonio devait reprendre ce texte, je me suis dit qu'il ne fallait absolument pas se baser sur. Ni avoir la crainte de devoir imiter, ni penser à prendre source d'inspiration là-dedans. Parce qu'Antonio est un homme très différent et son physique est très expressif d'une autre manière. Le rythme avec lequel il aborde le public est encore un autre. Et donc là, il y avait là-dedans la chance de pouvoir faire quelque chose qui lui appartenait.
Alors Dario Fo a eu le prix Nobel en 97. Il était pratiquement interdit en Italie.
Oui, c'est vrai qu'Antonio. Ouais, parce que Dario Fo, il avait plus qu'été interdit en Italie. Il a eu des problèmes de censure, notamment à la radio-télévision italienne.
Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il était aussi interdit, enfin aussi méprisé par la gauche et les communistes, alors qu'il dénonçait les injustices sociales.
Notamment si on regarde ce texte de l'histoire du tigre qui a été écrit. Je crois à la fin des années 70 en Italie, où il y avait un parti communiste qui était gauche, qui était fort et qui était en fait la force de position la plus représentative, mais qui restait à l'intérieur d'un certain critère que lui, il trouvait pas vraiment de position. Et qu'à cette même époque, les maoïstes en Italie, ils avaient créé toute une série de groupuscules à ce qu'on appelait l'extrême gauche parlementaire. Eh bien, l'histoire du tigre, si on veut, dans sa critique primaire à un parti communiste qui se dogmatise, qui se fige, qui n'arrive pas à comprendre la nécessité d'un peuple qui lutte, ils rentrent bien dans cet esprit. Donc c'est vrai que peut-être la gauche classique, comme ça, a trouvé cela un peu...
Est-ce que ce qui a fait son succès, c'est ça, la façon dont il a pu le présenter, d'une manière en utilisant beaucoup les métaphores et en rendant ses scènes aussi comiques? Est-ce qu'il arrive à faire passer son message grâce à ses artifices?
Ouais, en fait, il arrive à faire passer son message grâce à ses artifices. Et je pense que ce qui fait son charme et la beauté, c'est vraiment sa capacité d'histrion. Enfin, c'est un acteur qui conquiert, qui évidemment, ceux qui n'aimeront pas son discours politique seront peut-être frustrés parce qu'ils ne sauront pas vraiment comment l'attaquer, mais c'est un acteur qui sait qu'il a le goût du rythme de la comicité et que donc même dans les satires les plus dures, il arrive toujours à être performant au niveau d'abord comique et actorial.
Alors parmi les thèmes, enfin plutôt les sujets qu'il a abordés, on parle de la résistance italienne et palestinienne, le nazisme, le fascisme, les problèmes politiques, le divorce, la drogue, le terrorisme, la mafia, le sida,
féminisme,
la lutte des femmes.
Il ne faut pas oublier que sa relation professionnelle avec Franca Rame, qui dure depuis...
qui est donc son épouse, Franca Rame.
Elle dure depuis 50 ans au moins. L'a beaucoup rendu attentif à la situation des femmes. Franca Rame a eu aussi, elle a été malmenée, violée en fait par des fascistes. Et donc tout cela, c'est quelque chose que le couple Dario Fo et Franca Rame met en avant, la sexualité, la libération sexuelle. Donc ils ont fait partie, si on veut, ils ont grandi avec l'Italie dans son évolution politique, socioculturelle. Et puis ils ont toujours été attentifs à ce dont l'Italie parlait et quel était le regard juste à donner par rapport à ça.
Et Antonio, vous, dans cette relation que vous avez réussi à établir, le partage, la vie, la cohabitation avec la tigresse évoque aussi des rapports entre l'homme et la femme, puisque vous en avez un qui est cantonné aux tâches ménagères, celui qui fait cuire, celui qui fait rôtir l'animal.
Oui, oui.
Et puis là, c'est la tigresse qui va se battre à l'extérieur. Donc les rôles sont inversés par rapport.
Oui, tout à fait. C'est ça, à un moment donné, il le dit, il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, que je sois l'homme à la cuisine? Tout à fait.
Alors là, vous attaquez un petit peu le symbole macho.
Oui, mais il le fait d'une façon un peu. Bon, écoutez, il le fait d'une façon un peu troublante parce qu'à plein de moments, il est. Tu reprends.
Non,
vas-y. Ah,
Paula, vous êtes.
Écoutez, moi, je suis l'homme dans cette.
Vous êtes l'acteur, vous devez, non, vous devez écouter
non,
le métier.
Non, je pense. C'est vrai que la phrase, elle est macho parce qu'il dit bien.
Il faut toujours prendre tout de suite le dessus avec une femme, même si elle est sauvage.
Cette phrase sonne macho, mais en fait, ce qui est vrai, c'est le deuxième degré de la situation qui fait que, voilà, c'est l'absurdité de la situation qui rend cette phrase nulle d'un point de vue macho et qui, en fait, au contraire,
ça le fait ressortir. Et tu l'entends aussi dans les commentaires du public, c'est très beau. Parce qu'il y a, mais c'est pas agressif, c'est pas une fermeture à la phrase, sinon que c'est ça participe, ça c'est très beau.
Non, parce que la mise en scène montre que les deux ont besoin l'un de l'autre.
Voilà, voilà.
Donc la tigresse qui soigne avec la fameuse, fameux rappel de la bave du baume du tigre qui est censé tout soigner.
Ouais.
Et Paula, pas gagné entre. En mettant en scène cette partie macho, vous avez été plus influencé par Antonio ou c'est véritablement la qualité des sexes que vous avez remise?
Non, je pense que. J'ai jamais ressenti cette phrase comme machiste. Comme quelque chose, comme une attaque. Toujours, j'ai trouvé qu'elle était drôle de par le fait que c'était à une tigresse qu'il disait ça, dans une caverne, et que leur. Si on veut, leur cohabitation et tout cela ne faisait pas référence forcément à la vie entre un homme et une femme. C'est plutôt une ironie, un clin d'œil, justement une manière à la rigueur, avec un deuxième degré, de mettre l'attention sur un problème sans pour autant le soulever, puisque là, il parle plus que de ce problème homme-femme, il parle plutôt de résister face au pouvoir.
Face au pouvoir politique, ensuite, oui. Comme on le voit, qui est un de ses combats principaux.
Ouais.
De montrer à quel point il y a un dogmatisme politique,
oui.
Que lui peut dénoncer par la métaphore.
Tout à fait, c'est sa grande force, en fait, dans ce texte.
Donc, pour parler du théâtre Douai Pointi, vous venez de présenter à Lausanne La Nuit Américaine.
La Nuit Américaine, un spectacle qu'on a créé pour la Bâtie 2003, en fait, et qui... donc dans lequel il y a Antonio Buil, moi-même et puis Stefano Vercelli comme acteur. Nous avons eu l'aide de Pierre Missud, les lumières de Daniel Milovic, la musique de Robert Clair. Et en fait, si dans ce spectacle, on avait envie d'affronter le thème de ces personnes comme les gitans, les nomades ou les excessives, ces gens qui vivent leur vie d'une manière très ironique, très... comme un rêve, quoi. Non pas comme nous, et que donc quand on les regarde, on est chaque fois émerveillé, et donc on avait envie de traiter de ce thème en quelque sorte. Et voilà l'histoire de La Nuit Américaine, qui commence par une Mercedes qui arrive sur scène, et dans lequel il y a trois personnages plutôt gitans, plutôt nomades, plutôt on sait pas, c'est pas un travail ethnographique, c'est plutôt un travail sur le besoin de rêver, mais non pas comme ça, mais de pouvoir se laisser des libertés dans notre imaginaire, voilà.